Dieu notre Père, une fois encore, nous élevons nos cœurs vers toi, certains que tu veux nous bénir, car tu aimes nous bénir, et cela jusqu'à des milliers de générations. Tu nous l'as rappelé ce matin. Et ce que nous savons, c'est que tu ne changes pas. Toi, le Dieu qui apparut à Moïse, tu étais en Christ, réconciliant le monde avec toi-même. Mais tu t'en point aux hommes leurs fautes, mais celui qui était sans péché a été fait péché pour nous. Ce ne sont pas des textes qui restent extérieurs à notre vie et à nos sentiments. Nous sommes bouleversés quand nous pensons que le seul juste a accepté dans son amour pour nous d'être identifié au mal. Lui, l'agneau, devenant le serpent sur la croix, l'emblème de la malédiction. Ô notre Dieu, comment ne pas t'aimer, humblement t'adorer? Ouvre encore nos cœurs et donne-nous du goût pour toi. Viens nous apprendre à t'aimer sur la terre comme on t'aime au ciel. Amen. Très rapidement, nous arrivons déjà vers la fin du premier camp, la première semaine, en ce 24 juillet. En ce jeudi matin, et nous poursuivons notre thème qui donc est Dieu, en méditant encore et toujours ce livre merveilleux, le Cantique des Cantiques. Et voyez-vous, nous le disions au camp familial, quand on nous demande « Et quel est le plus beau livre que vous trouvez dans la Bible ?» J'aime à dire, avec d'autres, je me souviens que mon ami René Pache le disait toujours, le plus beau livre de la Bible, c'est le dernier qu'on étudie. Quand on est plongé dans un de ces livres, on trouve toujours que c'est le plus beau. Et c'est vrai, parce que toute la Bible est merveillée. C'est une vraie petite bibliothèque, mais qu'en connaissons-nous de ce livre? Ça m'a souvent affligé de voir que même des chrétiens très fondés dans l'Écriture, on le voit des fois au culte, ont une très petite Bible. Quand ils se lèvent, c'est presque toujours les mêmes passages qu'ils lisent. C'est vrai. Et alors on se dit, mais ils ont une très petite Bible, puisqu'ils lisent toujours les mêmes passages. C'est Apocalypse 5, bien sûr que c'est le culte. C'est Ésaïe 53, bien sûr que c'est un des sommets de l'Écriture. On ne se lasse pas d'entendre encore, entendre encore. Mais il y a pourtant tant de perles à travers toute la parole, et on serait renouvelé de voir ces perles sorties, et tout à coup, ça nous ouvre des avenirs. Ça nourrit notre pensée. On distingue quelque chose de plus merveilleux, les yeux de la colombe. Hein? Est-ce que nous avons les yeux de la colombe? Tes yeux sont des colombes, on distingue, on discerne de loin quelque chose. Puis on dit, ah bien, je m'en vais méditer là-dessus, parce que j'ai entrevu une chose merveilleuse. Et alors, on peut se poser, hein, si on est une colombe. Mais la colombe ne se pose pas n'importe où. Elle ne pose pas son pied dans les souillures. Elle revenait à l'arche quand la terre n'était pas encore purifiée après le déluge. tandis que le corbeau, lui, il est parvenu à trouver des charognes. Alors il se nourrit de cela. Mais la colombe, c'est l'oiseau pur. Alors elle revient là. Revenons toujours à là. Et ce matin, j'étais bien humilié. Parce que je me suis mis à relire, puis je me suis dit, mais je le rapporte si peu. Parce que tout à coup, en relisant, je voyais une foule de choses sur lesquelles je n'étais pas arrêté. Alors je vous le demande. Ne pensez pas que parce que vous aurez été au camp Mahanaïm, vous connaissez le cantique des cantiques, c'est pas vrai. Nous l'aurons vu à très haute altitude. Alors à vous de descendre, et puis de reprendre, de vous arrêter, de faire des stations, et de vous nourrir. Ne dites pas maintenant, moi je connais le cantique des cantiques, c'est pas vrai. On n'a jamais fini de sonder ces merveilles. Et surtout si vous êtes en face de son amour, pas d'un amour charnel, d'un amour humain, parce que bientôt c'est passé tout ça. Notre jouissance est très passagère. Tandis que la jouissance spirituelle, elle demeure. Elle ne laisse pas de regrets. Parce que bien souvent, l'autre jouissance, comme le disait Tolstoï, ça laisse un arrière-goût de cendre. Alors, je vous le demande, relisez encore ce chapitre 4, bien que nous ayons quelques versets que nous allons lire ce matin, mais nous allons peut-être repasser, puis vous me direz, vous, ce que vous avez peut-être vu encore. Vous voyez, hier, nous avons eu un ami qui n'avait pas pu s'exprimer et qui hésitait de le faire parce que, soi-disant, on avait dépassé le chapitre. Non, mais si vous avez encore quelque chose que vous avez vu, hein, partagez-le. Nous voudrions être dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Puis on n'a pas un cadre. On n'a pas tout planifié d'avance de telle sorte que ça doit se passer comme ça. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ça en pratique? Comprenons le bien. Je lis depuis le verset 7. Tu es toute belle, mon ami. Et en toi, il n'y a point de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens du Liban avec moi. Regarde du sommet de la Mana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Qui m'a ravi le cœur, ma sœur, ma fiancée. Qui m'a ravi le cœur par l'un de tes yeux. Car par l'un des colliers de ton cou, que de charme ont tes amours, ma sœur, ma fiancée, que tes amours sont meilleurs que le vin et l'odeur de tes parfums, plus que tous les aromates. Tes lèvres, ma fiancée, distillent le miel. Sous ta langue, il y a du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Tes plants sont un paradis de grenadiers, de fruits exquis. De henné, de nard et de safran, de roseaux odorants et de cinnamone, avec tous les arbres à encens, de myrrhe et d'aloès, avec tous les principaux aromates. Une fontaine dans les jardins un puits d'eau vive qui coule du Liban. Nous nous arrêterons là. Et c'est extraordinaire comment le Seigneur a tout prévu. Ce soir, nous n'aurons qu'un verset. Vous reviendrez peut-être un peu fatigué. Si demain matin, nous n'aurons qu'un verset. Que la grâce du Seigneur soit vraiment avec nous. Est-ce que je vous donne tout de suite la parole pour que vous ne pensiez pas après que je scamote et que je prends toute la place? Quelqu'un a quelque chose à partager. Oui?
Moi, c'est le verset 13 de l'article, non, le verset 12. Une fontaine scellée. Parce que mes amis considèrent, ça m'aide à une fontaine scellée parce qu'on est scellé du Saint-Esprit et de lui, c'est le sucre de vie.
Oui. Et qu'est-ce que ça te donne? Tu vas y penser. Quelqu'un? Oui?
Oui.
Attention, attention. Parce que si tu n'es pas un jardin clos, tu ne pourras jamais répandre ensuite les eaux. Si tu es un jardin public, il y a du jardin public. Mais il faut d'abord être un jardin clos, qui lui appartient en propre, dont il est le maître. Une fois qu'il y est lui, tout déborde. Oui.
Moi, c'est un peu ça qui m'attristait ce matin. Quand je voyais tant d'amour de la part du Seigneur pour moi, qui me voyait tellement parfait, je me disais, mon jardin n'est pas vraiment clos. Pour que toi seul, tu t'es circulé. Ma fontaine, ici, ma source, il y a plusieurs autres qui viennent boire à ma source. Tandis que c'est toi seul qui devrais être capable de venir boire à ma source. Et puis, quand il dit que tes plants sont un paradis et de fruits de des fruits exquis, je pensais que dans mon jardin, très souvent, il y a encore de la pollution du monde qui empêche ce fruit de mûrir à plein le fruit du Seigneur. Et puis, ça m'attristait, c'est de voir que m'avait donné sa vie, elle est en moi, elle est totale, elle est parfaite. Il n'y a pas d'imperfection dans ce qu'il m'a donné. Et il me voit aussi comme ça, mais j'ai encore à grandir pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Et je sais qu'il va y arriver.
C'est vrai. Oui, Cathy? Oui. Oui. Le jardin clos, pour Cathy, c'est la virginité, la chasteté. Elle ne donne pas son amour à tout le monde. Elle est réservée pour le Seigneur. Oui. Le plus fort possible.
Par rapport au jardin clos, je pense que ça rejoint le proverbe qui dit
Exactement. Chapitre 5 des Proverbes, oui. Pour les étrangers, oui. Il faut que ça soit pour lui seul, d'abord. Et après, lui nous permet d'être en bénédiction à tous. Oui.
La progression, quand on a passé de des temps noirs, de l'hiver, tout ce qu'après le Seigneur réconforte notre âme en nous disant comment il nous voit.
Comment dit?
Là, on arrive, là, moi, ça me faisait penser au jardin d'Éden. C'est la spontanéité retrouvée dans le dialogue avec Dieu. C'est ça que je voyais.
Oui. C'est vrai.
Oui.
Oui.
Moi aussi, célèbre, ma fiancée, Gisèle, le miel sous sa langue, et il y a du miel et du lait. Et puis, mon coup, moi, ça m'attristait beaucoup parce que je voyais que je pensais à ce que c'était mes paroles très souvent, et puis je voyais vraiment que c'était pas du miel, c'était pas du miel.
Alors, tu vois que le Seigneur nous montre ce qui peut lui plaire et ce qui lui déplaît. Alors, nous apprenons les choses qui plaisent au Seigneur en méditant la parole. Et puis, nous rejetons ce qui lui déplaît. Il faut que nos paroles aient la douceur du miel suivant à qui elles s'adressent. Et puis, que ce soit vraiment le pur lait intellectuel que nous donnions aux âmes. Des paroles qui édifient, qui nourrissent. Ce sera le lait pour les enfants, parce que c'est une nourriture appropriée à notre âme, mais ensuite ça deviendra de la viande pour progresser. Oui, Ed.
Chapitre 2, verset 16, mon dernier est à moi, et je suis à lui, et en progression dans chapitre 6, verset 3, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Et dans le chapitre 7, verset 10, je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. Alors, à travers ce livre, on voit que de plus en plus la fiancée se porte vers le roi.
C'est exact. Il y a toute une progression. Et c'est pour ça qu'on peut dire que nous trouvons, au fond, l'itinéraire d'une âme qui s'est donné au Seigneur, qui a été reçu par le Seigneur, et dont le Seigneur s'occupe pour la faire parvenir à la perfection. Et c'est là le travail de la parole. Vous devez bannir de votre esprit cette idée qui est un peu répandue par tous les plans de lecture biblique qu'on vous donne, et c'est pas mauvais, ça, au contraire, je ne dis rien contre ça, mais d'arriver à se dire... Ben, Moi, il faut que je lise ma petite portion, et puis j'ai lu ma Bible ce matin. Alors, il ne peut rien m'arriver. Il ne va pas me tomber une tuile sur la tête. J'ai lu ma Bible, j'ai fait mon devoir. Quand j'étais très jeune, enfant, on nous enseignait un quart d'heure sur 96. Commence avec le Seigneur, un quart d'heure sur 96. C'est la centième partie de ta vie pour le Seigneur. C'est vrai? Mais on risque alors de dire, ben, j'ai fait mon petit quart d'heure avec le Seigneur. Il y a 96 quarts d'heure dans une journée, j'ai donné mon premier quart d'heure pour le Seigneur. Puis voilà, on est tranquille, j'ai lu ma Bible ce matin. Puis tout à coup, un jour, on n'a pas eu le temps. Enfin, il y a eu des circonstances. Puis comme il nous est rien arrivé de fâcheux, on se dit, ben, on se relâche, c'est pour finir, on abandonne. Il faut que nous lisions la Bible pour nourrir notre âme. Puis c'est très bien de commencer le matin, mais c'est pas parce que vous avez pris votre petit déjeuner que vous n'allez pas dîner ni souper. Ça ne doit pas être un devoir, ça doit être un besoin. Parce que de toute façon, la parole, l'action de la parole, ça vous lave. Il est parlé du lavage de la parole. Et quand je lis la Bible, je remarque une chose, ça me purifie, ça purifie mes pensées. Ça me nettoie, le lavage d'eau par la parole. Et puis si vous dites, mais moi, ça ne sert à rien que je lise la Bible, je ne retiens rien, je n'ai pas de mémoire. J'ai quelquefois raconté une histoire qui illustre bien l'effet de la parole. C'est cet homme qui se plaignait toujours à un serviteur de Dieu qui n'avait pas de mémoire. Certains la connaissent parce que je crois l'avoir raconté. Il aimait beaucoup la pêche. Il y a des pêcheurs ici, en circonflexe. Il y en a peut-être aussi avec circonflexe. Alors, il est allé avec ce serviteur de Dieu pour faire sa pêche. Il avait un vieux panier d'osier, mais tout boueux. Et le serviteur de Dieu a une inspiration. Il lui dit, écoute, tu ne me rendrais pas un service, va me chercher un panier d'eau. Puis le gars le regarde, puis lui dit, mais je ne suis quand même pas fou. Vous voyez bien que c'est un panier d'osier. Va chercher ce panier d'eau, je t'en supplie. Fais ça pour moi. Pour vous faire plaisir. Alors, il est allé, il a rempli le panier, puis il a ramené. Et évidemment, il n'y avait plus d'eau. Il lui dit, retourne, va m'en chercher un second. Il s'est inspiré, je pense, comme on a dit que la mère de Moïse s'était inspirée de l'arche. Lui, il s'est inspiré de l'histoire de Naaman, cette fois. Puis alors, pour finir, le cher frère, qui n'avait pas de mémoire, il se fâchait presque. Il a dit, je veux bien encore le faire une fois, mais enfin, il ne faut quand même pas se moquer de moi. Puis, il est revenu la septième fois avec son panier, forcément vide. Il dit, alors, serviteur de Dieu, lui dit, regarde ton panier, tu ne trouves pas changé? Il dit, oui, il est propre. Il n'avait rien retenu, mais il était propre. Hein? Il n'avait pas de mémoire, mais lisez quand même. Si vous êtes même un panier d'osier, si vous dites que vous ne retenez rien, l'action de la parole nettoie. C'est vrai, ça. Ça peut vous aider, vous souvenir d'une petite histoire. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup d'humour. Et comme j'ai souvent dit, ceux qui n'ont pas d'humour n'iront pas au ciel. Non, mais parce que un amour sans humour, c'est lourd, c'est pesant. Quelqu'un d'autre? Oui, ça.
Il est parlé du rocher au contraire, et dans Esaïe, il est parlé d'un autre rocher qui ne brisera pas le rocher.
Oui, oui, oui. C'est vrai. Mais vous voyez, si vous avez compris que la parole s'explique par la parole, vous retrouverez justement le roseau à travers toute la Bible et vous mettrez ces passages ensemble, vous ferez vous-même des chaînes, sans même avoir besoin de Scofield. Vous ferez vos chaînes. Moi, j'étais très jeune quand j'étais malade condamné à l'hôpital, puisque on devait, soi-disant, je devais mourir à 18 ans et on avait même annoncé ma mort dans une église, un dimanche matin, et bien des gens qui m'aimaient bien déjà à ce temps, alors, me pleuraient, et puis j'étais encore en vie, puis je suis encore. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors pendant la nuit, mes nuits d'insomnie, je reprenais depuis la Genèse, puis j'essayais de suivre une pensée. C'est du reste comme ça que j'ai fait le message de Dieu aux veuves quand j'avais 18 ans. J'étais parti parce que j'avais eu une veuve à mon chevet qui m'avait confié sa douleur et qui m'avait dit, toi qui connais déjà bien ta Bible, est-ce qu'il y a des passages qui consolent les veuves? Alors, j'ai noté tous les passages depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse qui pouvaient parler des veuves. Puis, je les lui ai donnés comme ça. Puis après, ça est devenu ce message de Dieu aux veuves. Puis alors vous pouvez faire une autre chose, les larmes, parce que quand on est dans un hôpital, on voit bien des gens pleurer. Et puis les malades, la maladie à travers la Bible. Et alors, ça, vous êtes nourri. Et c'est très drôle que pendant les nuits d'insomnie, comme le temps passe vite, quand on est occupé du Seigneur. Ou alors, j'appelais ça de la gloire à la gloire. Je voyais le Seigneur dans la gloire. Je voyais s'incarner, descendre, puis, ayant tout accompli, retourner dans la gloire. Et l'aube se levait. Jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres fuient. J'irai à la montagne de la mire. Et je me préoccuperai de toutes les souffrances de mon bien-aimé maître. Et alors, en repassant ces souffrances, vous savez, ça attache les gens qui souffrent. Alors, je me suis attaché au Seigneur qui a tant souffert pour moi. Mais je vous promets que la lecture de la parole, elle nous purifie. Mais si vous lisez des romans, si vous remplissez votre vision de tout ce qui se passe dans le monde, bien comment voulez-vous être fort en face de la tentation? Vous tombez, et vous retombez. Et puis vous pensez que finalement, ben, c'est comme ça. C'est ce qui m'a amené aussi à écrire cet autre petit ouvrage, Médiocrité, ou sainteté. Parce qu'en final, on dit, de toute façon, nous sommes médiocres, il n'y a rien à changer. Mais c'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est le Seigneur qui nous sanctifie. Mais laissons-nous faire. Quelqu'un d'autre.
Le verset 15, a dit une fontaine dans les jardins, puis d'eau vive, coule du bain. Je fais penser au verset de Jean 7:38.
Oui.
Il dit que lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, ça m'a montré mon incrédulité.
Et vous avez là le 37 d'Ézéchiel aussi, n'est-ce pas, et qui nous montre qu'il répandra les eaux vives. Et puis il y a Zacharie aussi, chapitre 14. Comme dit l'Écriture, donc vous pouvez trouver dans l'Écriture plusieurs passages qui parlent de l'eau vive. Oui, Jacques. Plus fort.
C'est comme on voit par exemple la manière que Dieu nous voit. Et on nous dit par exemple, c'est Adèle mon ami, des choses comme ça. Mais on voit aussi que le chapitre 3, commencement du chapitre 3, c'est écrit, là, que mon lieu durant les nuits, je cherche celui qui aime mon âme. Après, le problème, c'est de savoir que moi, de quelle manière que moi je regarde mes frères et mes soeurs. Je regarde-tu après avec mon œil de fer ou si je regarde alors mes frères et mes soeurs? C'est là que j'ai le problème. Parce que Dieu, en tant que regarde notre âme, même Dieu, il regarde tout l'âme de notre frère et notre soeur, on regarde avec l'œil de fer, parce que c'est juste un âme. Ce qui est écrit, c'est que tous les jours sont des problèmes, la dernière sont joie. Parce que c'est ce qui dans les autres Hébreux que j'ai dit. C'est quand Jésus a ouvert la nouvelle route, là. Il nous a donné accès au sanctuaire, accès qu'il a inauguré pour nous, comme un chemin qui est nouveau et vivant au travail de voir cet agir de sa fête. Ce qui veut dire, moi, je m'arrête à regarder, justement, à l'affaire de mon frère et de ma soeur. Parce que, comme hier, par exemple, la parole de Dieu nous a dit, ben, c'est les yeux, si on regarde, par exemple, une personne, là, habituellement, les autres, les hommes, aussi, les femmes aussi, là, on a une serviette, ben, c'est les yeux, c'est la bouche, des choses comme ça. Mais là, si on voit une personne qui a des yeux qui nous plaisent, on s'arrête sur à regarder juste à l'œil, pour aller des yeux. Là, à ce moment-là, on tombe dans un œil charnel. Au lieu de regarder derrière le voile, que Dieu regarde. Dieu regarde la colonne qui est derrière. C'est là, nous autres, que Satan nous pointe. À ce moment-là, on est détourné parce qu'on regarde à la tête. C'est pour ça que. Puis, c'est justement ce que Jésus disait ici, par exemple, quand on est dans une autre chose, c'est ça dans ma fille. Parce que justement, on a encore salué samedi qui dit encore hier, c'est la parole de Dieu qui nous l'a dit. C'est chercher les célébrés. Mais chercher, par exemple, les chercher quoi? Chercher le refus de vos âmes. C'est ça que je constate le refus de notre âme. Parce qu'en fin de compte, les combats sont dans notre âme et dans notre tête. Parce qu'on regarde avec un œil de tête, notre âme, ben, on a des angoisses en temps, là, ça brasse. Mais ce que j'ai dit, nous a donné pour le refus qui nous dit de le refus de l'âme. Là, on voit ça, puis là, il nous parle tout, mais il parle à notre âme, mais c'est parce que nous autres, on regarde d'une autre manière. On pourrait peut-être essayer de regarder nos frères et nos soeurs, mais à l'âme, pour moi. Ça nous empêcherait de nous.
C'est vrai. Et vous savez, il nous faut nous habituer, puisque le Seigneur voit ses perfections en nous. Quand nous regardons nos frères, cherchons à voir les perfections du Seigneur en nos frères. Ainsi, l'époux verra en sa femme ce que Jésus produit. Il la trouvera belle. Et puis, la femme verra en son époux non pas ses défauts, mais ce qui est de Jésus en lui. Ça change complètement les relations.
Au verset 11, là, dans le 4-11, quand tu parles, par exemple, des lèvres, du style de miel. Si on regarde dans l'Épître, pas dans l'Épître, dans les Proverbes, vous avez deux sortes de la femme qui est du miel.
Oui.
Le miel qui est fini par dire la vie, mais vous avez aussi le vrai miel. Donc, ça, ça va faire une guerre à l'homme, à un moment donné.
C'est vrai.
C'est la manière, on regarde la bouche, là, c'est quoi de la vie?
Et vous savez, je trouve merveilleux la façon dont le Seigneur répond à toutes nos questions. Hier, il y avait une question. Vous vous souvenez? Et le Seigneur nous a répondu ce matin par le message qu'il m'a donné de vous apporter. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Tu m'as ravi le cœur par l'un de tes yeux. Et on s'est demandé si Moïse était ainsi. S'il a bien aimé, était borgne. L'un de tes yeux, ça faisait difficulté? Qu'est-ce qu'on a dit ce matin au sujet de Moïse? Son œil n'était pas affaibli. Alors, c'était un cyclope, Moïse? Il avait qu'un œil? Non, non, mais son œil, c'était ses yeux. Comprenez-vous? Il ne faut pas chinoiser. Tu m'as ravi le cœur par l'un de tes yeux, c'est ton regard. J'ai la vue, n'est-ce pas? C'est ça que vous dites. Et alors, pour Moïse, il a dit son œil ne s'était pas affaibli, c'est-à-dire sa vue. Alors, voilà la petite difficulté qui est enlevée. Il ne faut pas s'arrêter, se buter à certaines choses sur vous. Attendez, le Seigneur va vous donner un peu de lumière. On n'a pas tout à fait bien compris. Eh bien voilà, ce matin, le Seigneur nous fait comprendre. Alors, ne compliquons pas. Ayons un œil simple. Je dirais, c'est bien ce que le Seigneur dit. Si ton œil est simple, ça veut dire quand même les deux yeux. C'est ta manière de voir les choses. Et ça, mais nous compliquons tout. Nous compliquons toutes les choses que nous ne savons plus que faire. Ayons l'œil simple de la colombe. Autre chose? Oui? Plus fort. Non, je m'excuse, mais...
Il m'a ravi le cœur par l'un de tes yeux. Puis à ce moment-là, le Seigneur, je me demandais s'il ne voulait pas parler aussi de, comme vous dites, la façon de voir les choses, mais il faisait une distinction que la bien-aimée avait un œil charnel, un œil disons dans la terre, parce qu'on est des êtres humains, mais qu'elle avait aussi dans sa mère un œil spirituel. C'était pour que ce soit un œil spirituel pour la vie des gens.
C'est un peu élaboré, hein. Il faut, rester quand même dans la simplicité, bien sûr qu'on a, mais vous savez, on n'a pas qu'un œil charnel, hein, on a les deux. Vous comprenez, il faut faire attention alors là. Nos deux yeux, ils sont charnels. Sans ça, alors vous êtes drôlement, il faudrait vous opérer, hein, vous louchez. Donc il y a un œil qui est là, qui regarde le poirier, puis l'autre qui regarde le pommier. Quelquefois, c'est vrai qu'on louche les yeux des chrétiens. Eh bien oui, alors vous voyez qu'on n'en a pas fini avec tout cela. Et c'est ce qui m'était donné ce matin, ce qui m'humiliait, c'est que je me disais, mais je n'ai fait qu'effleurer notre sujet. Alors il faut sans cesse y revenir pour découvrir les perles qu'il contient. Alors, pour votre enrichissement et votre santé spirituelle, je vous le demande, revenez à cette description amoureuse du bien-aimé, à ces sept traits qui ravissent son cœur dans sa toute belle fiancée. Et dites-vous, ben, puisqu'il dit ces choses qui lui font du bien, il aime avoir cela en nous. Alors, prenez maintenant l'Évangile et recherchez dans l'Évangile les choses qui ont été un encouragement pour le Seigneur. Quelles sont les âmes qui lui ont apporté un peu de bonheur? Parce que même ses disciples lui ont apporté bien des tristesses. Parce que ses disciples étaient durs, ses disciples étaient orgueilleux, prétentieux, et ils ne le comprenaient pas. Et un jour, Jésus redescendant de la montagne, de la transfiguration, et trouvant ce pauvre homme avec son enfant qu'il a amené à ses disciples qui n'ont pas pu intervenir pour le bien de l'enfant, il est dit que Jésus a soupiré et il a dit « Oh, génération incrédule et perverse ». De qui est-ce qu'il disait cela? Des disciples. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? C'était décourageant pour lui. Et s'il n'avait pas été le Dieu de la persévérance, il les aurait renvoyés. Hors de son école biblique. Parce qu'on ne pouvait rien en faire. Eh bien non, il a persévéré pour les former. Il n'a renvoyé personne. Si un est sorti, il est sorti de lui-même. C'est Judas. Et le Seigneur lui a donné jusqu'au dernier moment la possibilité de revenir. Quand Judas a baisé le Seigneur, il lui a dit, ami, est-ce par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Mais Judas, au lieu de faire comme Pierre, d'attendre et de revenir et de s'humilier, Judas est trop orgueilleux, il est mort dans son péché. Et c'est ça, la terrible conséquence. Tandis que Pierre, qui n'avait pas été glorieux, avec imprécation par trois fois, il renie son maître, il s'est représenté. C'est humiliant de se représenter. Mais pourtant, Dieu lui a pardonné. Le Seigneur lui a pardonné. Et l'a établi pour paître ses agneaux et ses brebis. C'est merveilleux, le Seigneur. Donc ne vous découragez pas, quelle que soit votre faute, revenez, revenez au Seigneur. Ne vous endurcissez pas, et puis chassez le remords, et acceptez ce qui est mieux que le remords, la repentance, la métanoïa, la repentance. On revient au Seigneur, on s'humilie, on se juge, et on demande son pardon. Et alors, est-ce qu'il vous vient des idées au sujet de ce qui a pu faire du bien au Seigneur? Parce que les disciples lui ont fait souvent tant de tristesse. On lui amène des petits-enfants. Qu'est-ce que les disciples disent? Ne fatiguez pas le Seigneur, oui. Et Jésus dit, mais laissez venir à moi les petits-enfants. Il a été indigné contre ses disciples. Les parents sentaient le besoin d'apporter leurs enfants au Seigneur pour qu'il les bénisse. Le disciple n'y comprenait rien. Il y avait une femme syrophénicienne, cananéenne, qui avait sa fille cruellement tourmentée par un démon. Et puis elle criait derrière Jésus, dans la contrée du Liban, justement, que Jésus visitait. Elle disait, fils de David, aie pitié de moi, puis elle criait, puis Jésus faisait comme s'il n'entendait pas. Alors les disciples sont furieux à un moment donné, et ils disent au Seigneur, fais taire cette femme, elle crie après nous. Elle crie après nous. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Et quand il voit que cette femme accepte sa parole, qui était pourtant humiliante, il dit qu'il était venu seulement pour les brebis perdues d'Israël, et qu'il ne convenait pas de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. C'est comme ça que les Juifs appelaient ceux qui n'étaient pas israélites, c'était des chiens. Puis la femme, elle s'en est pas pris. Elle a même été plus loin que le Seigneur. Elle dit, oui, mais même les petits chiens, elle n'est pas même un gros chien, un petit chien, il peut manger les miettes qui tombent de la table. Elle veut que les miettes. Alors Jésus, alors son cœur est rempli. Et il admire la foi de cette femme, de cette cananéenne. Est-ce que nous en sommes là? Pouvons admirer la foi d'une cananéenne? On dit oui, mais... Souvenez-vous, cherchez maintenant dans les évangiles ce qui a pu réjouir le cœur du Seigneur. Ce qui a pu lui plaire. Quand un païen lui dit, je suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Vous entendez ça sans cesse, hein, à chaque Eucharistie dans certaines églises. Mais, est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire? Puis seulement une parole. Alors il a dit, Jésus l'admire. Il va jusqu'à admirer la foi d'un païen. Et il a répondu immédiatement. Et vous pourriez trouver d'autres exemples. Les satisfactions du Christ dans les évangiles, d'où venaient-elles? Alors je vous invite vraiment à relire ces traits Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Et voyez-vous, derrière ton voile, méditez encore, ce trait, il est caché au monde. Les hommes ne peuvent le discerner. Il est parlé d'un évangile voilé. Mais l'évangile voilé, il l'est pour ceux qui périssent, de Corinthiens 4, verset 3. Mais pour Christ, cette beauté a une grande valeur. Le monde ne nous voit pas beau, mais c'est une beauté cachée. L'homme caché du cœur. Le Seigneur voit cette beauté derrière le voile. Pour le monde, c'est voilé. On ne voit pas cette beauté. Ils ne nous connaissent pas parce qu'ils ne l'ont pas connu. Alors, c'est voilé. Parce que pour que nos yeux voient, il faut vraiment être né de nouveau. C'est ce que nous avons déjà souligné. Seul celui qui est spirituel discerne toutes choses. Vous avez reçu l'onction de la part du Saint, vous n'avez plus besoin que l'on vous instruise. 1 Jean 2, verset 20. Et vous voyez un exemple, par exemple, de ce voile. Quand Jésus demande, qui disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme? Et vous, qui dites-vous que je suis? Alors, tout à coup, vous voyez Pierre qui a les yeux d'une colombe. Il distingue quelque chose. Et que dit-il? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais immédiatement, le Seigneur lui montre que ce qu'il a dit ne venait pas de son cœur charnel, mais du Père et qui était dans les cieux. De sorte que Pierre ne peut pas se glorifier d'avoir fait une trouvaille. Hein? Il y avait un voile. Mais Dieu lui avait permis de discerner cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Mais quand Pierre veut dire quelque chose, parce qu'on lui a dit que il avait une révélation du Père, et il veut reprendre le Seigneur quelques instants plus tard, en lui disant, Seigneur, ça ne doit pas t'arriver, ce que tu viens de dire, que tu vas mourir à Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu lui, et le Seigneur lui dit? Arrière de moi, Satan. Donc le même homme peut être l'instrument de Dieu pour dire une vérité fondamentale, et puis après, l'instrument de Satan. Puis vous pourriez méditer aussi sur ce que Paul dit au sujet de sa vocation. Il a été appelé pour ouvrir les yeux des aveugles. On pourrait voir aussi les guérisons que le Seigneur a opérées. Il y a au moins 7 aveugles qui sont mentionnés d'une façon particulière dans les évangiles et que le Seigneur a guéri. Mais qu'est-ce qu'il leur disait? Ne le dites à personne. Il y avait le voile derrière ton voile. Une vue pour le Seigneur derrière le voile. On ne se glorifie pas dans le monde. C'est une vie vraiment cachée, une vie en secret. Vous pourrez méditer sur ces choses. Vous arrivez de nouveau aux cheveux, à ce troupeau de chèvres. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas assez, ou je n'ai pour ainsi dire pas parlé du mot troupeau. Troupeau. Chaque cheveu compte, avons-nous dit hier soir. Mais tous ensemble, ils sont unis. Hein. Comme des troupeaux de chèvres, ces chèvres noires qui descendent de Galade. Et voilà que vous trouvez de nouvelles vérités. Chaque cheveu est compté, chaque croyant a sa valeur, mais dans une chevelure, c'est une seule chevelure. Le corps de Christ est vu dans son unité. Et là encore, vous y trouvez dans l'image de la chevelure la soumission dans l'Église à l'égard du Christ. Séparation, consécration,
Alors si on est étreint par son amour, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour lui. Et il y a des choses que l'on fera, même que les autres ne nous comprendront pas, mais on les fera pour lui. Est-ce que cela plaît au Seigneur? C'est pas est-ce que c'est selon nos coutumes, mais est-ce que cela plaît au Seigneur? Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alors nous faisons toutes choses pour lui plaire. Je veux savoir si cela te plaît, Seigneur. Et c'est une vraie soumission, une réelle consécration des saints individuellement, et cela les amènera inévitablement à être unis. Et alors, il en découlera un état collectif qui aura vraiment un caractère de troupeau. Et le Seigneur, qui est le berger, conduira les âmes à cette vraie unité. Et nous aurons alors comme pâturage ces pentes de Galade qui apportaient une riche nourriture. Vous voyez, on pourrait prolonger ces lignes. Je vous ai dit que ce n'était que quelques pistes de réflexion. Faites Jean des avenues. Puis après, vous passez aux dents. La capacité de prendre de la nourriture. Car c'est par les dents que la nourriture est rendue assimilable. Alors, par grâce, nous acquérons cette faculté qui plaît au Seigneur. C'est lui-même qui fournit la nourriture en abondance. Et il prend plaisir à nous voir nous approprier cette nourriture qui peut être l'agneau pascal, la manne, la chair, le blé, le pain. Mais pour que la nourriture nous soutienne et nous fortifie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la mastiquer. Il faut la manger. Parce que vous pouvez avoir de la nourriture, mais si vous ne la prenez pas, vous n'avez pas de force. Et ces gens qui se plaignent toujours de faiblesse, mais est-ce que vous vous nourrissez? Il faut que vous l'assimiliez. Et puis, alors, ces brebis aussi représentent ceux qui sont participants de la nature divine, mais aussi la brebis tondue. Qui est-ce qui s'est laissé tondre? Qui est-ce qui a été comme une brebis muette devant ceux qui la tondent? Vous voyez que tous les textes s'enrichissent par d'autres textes et vous amènent à d'autres pensées. Donc, dire qu'on n'est pas nourri, ben c'est de la folie. Quand on lit la parole, on est nourri. Et comme l'avait dit Moïse à Josué, si tu restes dans cette parole, et cela a été confirmé par le Seigneur lui-même, qui lui dit, n'est-ce pas, de ne pas s'écarter de cette loi, il réussira, s'il la médite jour et nuit, il réussira dans toutes ses entreprises. Mais c'est toujours par la parole. Mais voilà, il faut que les brebis, toujours en parlant des dents, montent du lavoir. Il faut justement que cette lecture de la parole nous lave. Il ne faut pas simplement manger, mais il faut, avant avoir été purifié, il faut vraiment ce lavage d'eau, la purification. Si on nous dit, mais on ne comprend pas la parole, puis alors, ça ne sert à rien. Et lavez-vous. Prenez ce bain de la parole. Puis, ce qui ne convient pas pour Christ, bien, il doit être évité, ôté, jour après jour. Sinon, notre faculté d'assimilation sera diminuée. Puis, il est parlé aussi de la fécondité. Aucune de ces brebis n'est stérile. Et on pourrait dire qu'elles ont toutes des jumeaux. Chaque croyant devrait être occupé au moins du salut de deux âmes. Vous verriez alors comme le corps de Christ croîtrait en nombre. Si chacun de vous, vous aviez au moins deux âmes sur le cœur. Mais aujourd'hui, on veut les grandes foules. Si on n'atteint pas les individus. Que chacun de vous ait à cœur deux âmes. Vous priez pour ces âmes. vous les visitez, vous attendez que le Seigneur vous donne vraiment l'occasion de parler de Jésus, mais d'en parler parce que vous êtes avec lui, parce que vous le connaissez. Et vous savez, quand on entend quelqu'un parler du Seigneur avec chaleur, avec l'amour du cœur, eh bien, c'est pas l'éloquence humaine. Le berger qui est amoureux de sa bergère, comme le dit Homère, il trouve des mots ailés pour lui parler de son amour. J'aime beaucoup cette expression dans Homère. Il trouve des mots ailés. Il n'a pas de culture, il n'a pas été dans les écoles, mais parce qu'il aime, il lit des choses belles, puis s'inspire de la nature, un peu comme Salomon, n'est-ce pas? La question, c'est d'avoir un cœur chaud, un cœur qui aime. Et alors, c'est ça qui m'afflige dans nos cultes, si souvent, on a si peu à dire au Seigneur, d'une explosion, n'est-ce pas, de l'esprit en nous, des cœurs qui débordent, des coupes vraiment pleines. Et alors, des lèvres qui confessent son nom. Hein. Parce qu'une fois que les dents ont mastiqué, on est nourri, alors on peut parler. On peut parler. Les paroles sont disposées sur nos lèvres, mais pour qu'elles soient disposées sur nos lèvres, il faut d'abord qu'elles aient été dans notre cœur. Hein. Et alors, le Saint-Esprit les dispose. J'aime beaucoup ce verset des Proverbes. Si ces paroles sont envoyées, il y a bon, bien oui. Elles seront disposées sur nos lèvres et nous aurons la parole à propos, des paroles agréables, des lèvres qui ont été purifiées par le sang de l'agneau. Il y a des choses qui ne sortent plus des lèvres d'un racheté, des lèvres d'un homme qui a été purifié. Et vous continuerez, vous reverrez le coup, la tour, les saints. Et j'étais frappé ce matin, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas fait exprès. Mais il y avait les saints de Jochebed qui ont fonctionné. Pour qui? Pour Moïse. C'est beau, hein? C'est vraiment beau, la parole. Je deviens de plus en plus amoureux d'elle. Mais surtout de celui qu'elle me révèle. Je ne serai jamais un bibliolâtre, mais j'adore celui que la Bible me révèle. Oh, allez à la montagne de la Myre. Quand vous prenez la Seine, soyez sur ce mont Golgotha. Revivez le calvaire. Paul disait aux Galates, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été crucifié au milieu de vous, il n'avait pas assisté à la crucifixion. Mais il en avait eu la révélation des souffrances du Christ. La montagne de la Myre. Allez à la colline de l'encens. Maintenant le Christ intercède pour nous, il prie pour nous, jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres fuient, et que nos affections spirituelles soient des affections vraiment pleines de sensibilité, pleines de tendresse, l'image des deux saints, l'image des pharaons, et qui sont si sensibles et qui disparaissent si facilement quand il y a un danger. Et alors, tandis que le Seigneur contemple la beauté de l'épouse, où sont les regards de l'époux? De l'épouse. Elle est encore au Liban, nous l'avons vu, elle est encore dans le monde. Le Liban peut être une figure du monde, mais du monde qui n'est pas sans beauté. Mais elle y est étrangère et toujours menacée. Elle doit le savoir, même si elle a atteint les hauteurs spirituelles, la mana et l'autre montagne, le Sénir. Et l'Hermon, le Liban veut dire blanc, quelqu'un l'a demandé hier soir, blanc, blancheur. La manna veut dire intégrité et vérité. côté. Le Sémir, côte de Maille. Et puis l'Hermont, destruction. Mais si on est avec le Seigneur, sur ces hauteurs spirituelles, mais même quand on est sur les hauteurs spirituelles, il y a des dangers. C'est pour ça qu'il faut être avec le Seigneur. Et il voudrait nous détacher même du monde dans ce qu'il a de plus beau, dans ce Liban merveilleux, où on risque de remettre son cœur, même on voit les choses, puis on trouve, mais c'est beau, il n'y a pas de mal à ça. Oui, mais si ton cœur s'y engage. Nous devons, voyez-vous, comme dit Paul, traverser le monde comme des étrangers. Usant du monde comme n'en usant pas. Alors le Seigneur nous instruit, et puis il veut être avec nous, qui nous dit encore que l'on ravit son cœur. Alors moi je veux savoir comment est-ce que je peux ravir ton cœur. Dans quelle situation me veux-tu pour que tu aies du bonheur, Seigneur? C'est pas que moi je sois heureux, mais c'est que je donne du bonheur au Seigneur. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous allez arrêter dans votre cœur aujourd'hui, ce matin, que maintenant, c'est plus votre bonheur que vous allez rechercher, mais le bonheur du Seigneur? Lui donner un peu de bonheur à lui qui vous a tant aimé. Eh bien, c'est en recherchant ce qui lui plaît que vous serez vraiment heureux. On est heureux dans la volonté de Dieu. Et cette volonté, c'est lui qui nous la révèle. Mais je veux faire maintenant ta volonté, Seigneur. Et alors, maintenant, mes yeux sont sur toi. Et puis, je veux vraiment avoir ce collier, puisque tu dis que c'est que mon collier, par les colliers de mon cou, eh bien, je te ravis le cœur. Qu'est-ce que c'est que ce collier? Qu'est-ce qui me donne un collier? C'est la parole. C'est de garder ses commandements. Vous avez cela dans le chapitre 3 des Proverbes, et dans le chapitre 6, ce sera votre sécurité. Puis en même temps, vous savez que si vraiment vous êtes conduit par la parole de Dieu, vous donnez du bonheur au Seigneur. Que de charme en tes amours, ma sœur, ma fiancée. Vous voyez qu'il emploie toujours ce terme maintenant, ma sœur, ma fiancée. Le mariage n'est pas consommé. C'est toujours sa sœur. C'est tellement beau. Et puis, il lui rappelle, mais tu es ma fiancée. Tu as dit oui. Alors, tu vois, le monde te tente peut-être encore. Mais souviens-toi que tu es ma fiancée. Et plusieurs fois, il lui rappelle, tu es ma fiancée. Tu es ma sœur. Encore maintenant. Mais tu es ma fiancée. L'union, nous l'aurons. Que tes amours sont meilleurs que le vin. Ce que tu me donnes, c'est tellement plus merveilleux que tout ce que la création peut donner. Même pour moi. Il a pourtant, lui, créé toutes ces choses. Ces choses qui sont belles, ces choses qui sont bonnes. Eh bien, Dieu dit que l'amour d'une pécheresse lui fait encore plus de bonheur que toutes ces œuvres que lui a faites. Quand il voit l'œuvre de l'esprit dans une âme, bien le Seigneur est plus heureux que de toutes les œuvres de la création. Moi, je suis bouleversé quand je pense à cela. Alors, je vous dis, méditez, méditez, méditez toujours, méditez encore. L'odeur de tes parfums, plus que toutes les aromates. Et voyez-vous, les parfums, eh bien, on s'en imprègne le corps, mais on en met aussi peut-être sur ses vêtements. Et le monde où nous sommes respire ce parfum-là. Quelle odeur avez-vous sur vous, dans votre usine, dans votre école, dans la campagne, même dans l'écurie? Bien sûr. Jean-Jacques peut le dire. C'est ça qui est merveilleux. Oh, Jean-Claude, pardon. Il ne m'en veut pas. L'occasion de me pardonner. Vous voyez, on a toujours des faiblesses. Mais c'est beau, cela. Et les vaches le sont aussi. Parce que le juste, il prend soin de sa bête. Et ça, c'est un parfum pour une bête. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants avec les animaux. Le juste, dit l'Écriture, prend soin de sa bête. Et ça, c'est le parfum pour la bête. Puis regardez les chiens, regardez les animaux, ils sont sensibles à la manière dont on les traite. Est-ce que vous avez un peu de parfum pour les bêtes? Alors si vous avez du parfum pour les bêtes, ayez aussi du parfum pour ceux qui vous entourent, même pour ce mauvais patron qui vous tanne. Pour finir, s'il respire vraiment fortement, eh bien, il peut être amené. Et alors nos lèvres, eh bien, vraiment que ces lèvres qui ont distillé tant de vinaigre puissent distiller du miel et qu'il y ait ce lait sous notre langue, et non plus du venin d'aspic, comme dans le chapitre 3, l'odeur de tes vêtements comme l'odeur du Liban, de ce beau Liban, de ces collines embaumées, parce que c'est bien ce que j'y ai vu en 1958, plus maintenant, hélas. Et maintenant tu es dans le jardin clos, ma sœur, ma fiancée. Oui, c'est pas un jardin public. Vous devez d'abord appartenir totalement au Seigneur. Et c'est dans la mesure où, puisque vous êtes fiancée, vous dites non à tous les autres prétendants. N'importe qui ne peut pas entrer dans votre jardin. C'est le jardin du Seigneur. Vous ne laissez pas un étranger y entrer. Le jardin d'Éden, il était ouvert. On n'a pas veillé. Et pourtant, le Seigneur lui avait dit de garder le jardin. Il n'a pas gardé. Et un étranger est venu. Et ce fut le séducteur. Un jardin clos, mais un jardin qui n'aurait pas de source, il sera desséché. Qui est la source? Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie chapitre 2. Une fontaine scellée, elle ne sera ouverte que pour le Seigneur. Et alors, une fois qu'il entrera, lui, dans son jardin, c'est lui qui dira, venez, mangez, buvez, bien-aimé. Vous comprenez? Mais il faut d'abord qu'il y ait eu cette préparation. Tout est d'abord pour lui. Tes plants sont un paradis de grenadiers, de fruits exquis, et puis vous voyez défiler toutes les aromates possibles, le henné, le nard, et le safran, le roseau odorant, le cinnamon, avec tous les arbres en sang, myrrhe, aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine dans les jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. C'est ce qui arrivera. Mais il faut être d'abord tout cela pour le Seigneur. Et forcément, ça vous a fait penser à quelle femme, ce passage? Le puits de Samarie. Et le Seigneur lui dit, celui qui boira de cette eau aura de nouveau soif. Celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura plus soif à jamais. D'où aurais-tu donc cette eau? Puis tu n'as rien pour puiser. Vous voyez, le Seigneur était complètement dépourvu. Nous, on veut sauver les âmes. Alors il nous faut tout un matériel pour puiser. C'est vrai ou c'est faux? Ça coûte cher hein, d'acheter tout ce matériel. On fait des grandes préparations, on demande de l'argent partout. Le Seigneur, lui, le monde doit se dire, ils en ont de l'argent, ces chrétiens, hein, pour pouvoir organiser des choses pareilles, des masses médias qui coûtent les yeux de la tête. C'est des grands financiers, ces chrétiens. Le Seigneur n'agissait pas ainsi. Le monde disait, il n'a rien pour puiser. Puis pourtant, c'est lui qui allait donner l'eau vive. Mais voyez-vous, mes amis, on lit ces choses, mais on ne s'en pénètre pas, alors on ne se corrige pas. Parce que des gens qui sont des chrétiens, qui auront à répondre au Seigneur de leur méthode, bien sûr. Mais voyez-vous, moi j'ai été saisi encore ce matin, en repassant très rapidement la vie de Moïse, je me suis dit, mais je dois trembler. Un Moïse qui était si fidèle, qui était un intercesseur, duquel il est dit qu'il les eut détruits, donc tout le peuple d'Israël. Si Moïse, son élu, ne s'étaient pas tenus à la brèche jour et nuit pour qu'ils ne les détruisissent pas. Et puis voilà que ce Moïse, dans un moment peut-être de fatigue, parce qu'il est un peu énervé par ces gens qui ne font que murmurer, au lieu de parler au rocher, il frappe deux fois le rocher. Et Dieu lui dit, tu ne m'as pas honoré dans cette affaire. Tu n'entreras pas. Et notez bien, qu'est-ce qui vous frappe? Il n'a pas fait ce que le Seigneur lui demandait, parler. Il a frappé. Il a frappé deux fois. Mais est-ce que parce qu'il a employé une mauvaise méthode, est-ce que l'eau n'est pas sortie? L'eau est sortie quand même, parce que Dieu a pitié du peuple. Mais ne pensez pas que parce qu'il y a des bénédictions, parce qu'il y a des âmes sauvées, que c'est juste d'employer telle méthode. Croyez-le bien. Parce qu'un jour, vous aurez des comptes à rendre. Tu n'entreras pas. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? La parole ne vous instruit pas, ne vous enseigne pas? Tu n'entreras pas. L'eau a coulé quand même. Et nous, parce que l'eau a coulé, c'est bon. Et je ferai la même chose que Moïse. Ben oui, ben, tu peux faire la même chose que Moïse. Il y a un tas d'imitateurs. Telle personne a peut-être reçu tel don, ben, qu'il l'emploie, qu'il fasse comme il veut, il aura à répondre au Seigneur, c'est pas à moi de juger mon frère. Mais je n'ai pas à l'imiter. J'ai à être fidèle à ma vocation. Et j'ai à me laisser former par la parole. David en a fait l'expérience très douloureuse. Les Philistins voulant que l'arche de l'Éternel qui était au milieu d'eux et qui leur amenait des désagréments, ils veulent la faire retourner en Israël. Alors les devins philistins donnent des conseils, ils disent c'est un chariot neuf, prenez deux vaches qui allaient et puis attelez-les au chariot neuf, vous mettez l'arche dessus. Et voilà nos deux vaches qui sont assez intelligentes. Parce que menées par l'Esprit de Dieu, Dieu conduit aussi les vaches, elles prennent directement le chemin de la frontière Beth-Shemesh, où j'ai souvent passé. Elles vont directement sur le chemin de la frontière, elles quittent le pays des Philistins, et vous savez, les vaches qui tirent, ben, l'arche aurait pu branler, elles ne branlent pas sur le chariot neuf. C'est le chariot des Philistins. Mais quand David, voulant faire remonter l'arche, lui, à Jérusalem, pense qu'il peut imiter ce qui s'est fait dans le monde, hein, ce qui s'est fait chez les Philistins, et il fait aussi son chariot neuf, parce que nous, nous trouvons toujours notre inspiration dans le monde. Tiens, ça, ça a réussi pour le monde, et nous allons prendre ces moyens du monde. Alors, on fait notre chariot neuf, puis on n'y met pas des vaches, on y met des sacrificateurs. Et puis voilà, le chariot part et l'arche branle sur le chariot de David. Et un sacrificateur veut la retenir. Il meurt. C'est grave, hein? Et nous n'apprenons rien. En David se lamente, se demande pourquoi. Puis quand il comprend, parce que comment est-ce qu'il a compris? Ils sont revenus à la parole. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Que l'arche devait être portée par les sacrificateurs. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça ne branlait pas. Vous comprenez? Mais parce que ça n'a pas branlé sur le chariot des Philistins, mais parce que c'est un Dieu de grâce et qui maintient son arche. Les Philistins n'y connaissent rien. Ils ne sont pas responsables. Eux, ils ont eu les hémorroïdes, c'est déjà assez. N'est-ce pas? Et puis les souris. Et les souris. Alors c'est assez pour eux. Mais les sacrificateurs qui ne font pas... Alors ils le savaient pourtant les sacrificateurs que l'arche devait être portée sur les épaules. Alors on meurt. Donc regardez Moïse, l'homme de Dieu, Dieu n'a pas passé là-dessus. Il lui dit, tu n'entreras pas et ne me parle plus de cette affaire. Alors Moïse a cessé de prier. Comme Paul. Parce que je me dis avec Paul, quand on a été élevé au troisième ciel, on ne doit plus avoir de danger. Qu'est-ce que vous pensez? Quand on a été à des hauteurs si élevées. C'est justement là qu'on est en danger. Alors les chars disent là depuis ce moment-là, parce qu'ils pourraient se glorifier. Et alors vous voyez, il y a le voile. C'est merveilleux. Alors méditez, méditez, je vous ai redit les mêmes choses peut-être. Mais c'est simplement pour vous montrer qu'on n'a jamais fini. Et ne me dites pas que vous connaissez le livre du Cantique des Cantiques. Je ne le connais pas. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir de nous avoir donné encore cette matinée, ce soleil, ces enseignements. Et nous comprenons de plus en plus que vraiment ce livre que nous en sommes en train d'étudier est rempli de l'Écriture. Et nous voulons te demander que nous puissions être de ceux qui sondent encore les Écritures. Et qu'au lieu d'être choqués par certaines expressions, par certaines images, que nous allions vraiment avec ton esprit pour les comprendre. Donne-nous de nous laisser briser, de nous laisser corriger. Et que nous ne nous détournions pas d'un filon d'or que tu voudrais nous faire trouver. Même si nous trouvons beaucoup de terre qu'il faut déblayer, que nous puissions aller plus loin et descendre jusqu'aux profondeurs de Dieu où nous trouvons le trésor. Pour ta gloire et pour notre bonheur. En Jésus-Christ. Amen.